Jusqu'au 22 mars 2026, le département du Var vous invite à découvrir Carnaval d'ici et d'ailleurs à l'hôtel départemental des expositions du Var à Draguignan. L'exposition vous plonge au cœur des fêtes de l'hiver du monde entier. Un voyage à travers les époques et les continents fait de couleurs, de satire et de transgressions. Carnaval d'ici et d'ailleurs dès le 13 décembre à l'HDE Var. Plus d'infos sur hdevar.fr.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Les chantiers de la recherche consacrée au Second Empire, avec là aussi une concordance des temps face au recours répété au 49-3 par le gouvernement. Certains s'interrogent sur le rôle et l'utilité de nos députés, pourtant censés incarner un rôle de contre-pouvoir sous la 5e. Dans les chantiers de la recherche, on va s'intéresser au rôle des parlementaires, mais dans l'histoire politique française, grâce à vous, Nicolas Tardy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique. Vous avez soutenu votre thèse il y a peu de temps, la fabrique du consentement parlementaire, le corps législatif du Second Empire. Là, il faut, Nicolas, que vous nous rafraîchissiez la mémoire. Comment tout cela se déroulait au Second Empire ?
Bien, je vous remercie pour votre invitation. Bon, je vais pas aller très long sur les éléments de contexte, mais le Second Empire, c'est 1852-1870. Et moi, je me suis intéressé à cette période pour essayer de comprendre comment les députés en viennent à consentir à l'autorité d'un chef d'État. Pourquoi des députés sont dociles ? Pourquoi une institution telle que le corps législatif vient à se soumettre à l'autorité d'un, là pour le coup, d'un empereur, mais qui était aussi président de la République, parce que Napoléon III a été le premier président de la République élu au suffrage direct des citoyens.
Oui, avec d'abord une élection, puis un coup d'État.
Exactement, le 2 décembre 1851, un coup d'État qui renverse la Deuxième République.
Et le rôle du parlementaire sous cette république, donc ce que vous avez étudié, Nicolas Tardy.
Oui, et ben c'est là où le cas du Second Empire est un cas assez exemplaire, puisqu'on se retrouve avec des députés qui sont élus au suffrage direct des citoyens, mais qui pourtant n'ont aucune initiative législative. Il n'y a pas de tribune dans l'Assemblée nationale, le public est interdit, il n'y a pas non plus de reproduction des débats de l'Assemblée, il y a très peu d'ailleurs de débats et de séances. Bref, c'est une Assemblée qui est vraiment soumise à l'impuissance, et donc j'essaye de comprendre comment se jouent ces relations d'autorité entre ce pouvoir exécutif et ce pouvoir législatif. Et je mets en avant des mécanismes, on va dire, à la fois très verticaux, qui s'imposent aux députés, mais aussi plus horizontaux, qui permettent d'expliquer leur fidélité.
Leur fidélité avec quelle représentation se faisait-il de leur rôle, ces députés ?
C'est une question centrale que j'évoque dans la thèse. Moi, ce que je peux constater, bon, il y a plusieurs matrices, on va dire, de cette domestication des députés, mais parmi ces matrices, il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est la question de la représentation politique. Mmh. Et moi, je constate une inversion de l'économie de la représentation où les députés, bien qu'élus à ce suffrage des citoyens, sont pensés et se pensent comme des députés qui sont avant tout des représentants du pouvoir exécutif, des représentants de l'empereur et non plus des représentants du peuple. Et ça, on le voit dans leur profession de foi, dans leurs écrits, dans leurs mémoires. Bah, il y a cette inversion d'une économie de la représentation, en quelque sorte.
Et alors, l'empereur, que fait-il ? À l'époque, d'ailleurs, il n'était pas encore empereur.
Alors, bon, c'est effectivement...
C'est ça, à cheval sur les deux périodes.
C'est à cheval sur les deux périodes, et c'est d'ailleurs très difficile de découper comme ça la période du Second Empire, si on prend simplement à partir du coup d'État ou de l'officialisation du Second Empire.
Il était autoritaire avant.
Bon, moi, je juge moins, on va dire, le caractère psychologique du personnage.
Non, de son style de gouvernement.
Oui, mais c'est-à-dire que très vite, il y a une tension qui l'oppose aux parlementaires, mais l'enjeu principal étant pour lui, effectivement, de renouveler cette Assemblée nationale. Et donc, après le coup d'État, des élections législatives ont lieu et qui lui permettent de sélectionner directement l'ensemble des députés sur le territoire par un mécanisme qui s'appelle la candidature officielle, qui lui permet de donner comme ça son patronage officiel à ces candidats-là. Et la conséquence de ce mécanisme, c'est qu'on se retrouve dans une assemblée avec 72% de novices, de primo-entrants, de gens qui n'ont aucune expérience politique nationale auparavant, et qui facilitent très largement, disons, leur consentement à cette autorité.
Et donc là, quand on prend ce consentement à l'autorité, quelles sont les ressemblances ou les différences avec ce qui se passe aujourd'hui, Nicolas Tardy ?
Bon, alors, quand on fait de la socio-histoire politique, c'est toujours, il faut toujours prendre des précautions, hein, lorsqu'on l'applique sur le présent ou dans d'autres configurations.
On est entre nous.
Oui, mais c'est vrai que c'est... Je vais pas me défiler, parce que lorsque j'écris ma thèse, lorsque je commence ma thèse en 2017, on se retrouve dans une situation où c'est le premier mandat d'Emmanuel Macron, et avec le chiffre, là encore, de 72% de novices, et dont 50% de la majorité présidentielle. Et lorsque je reprends un petit peu le modèle d'analyse sur les différentes modalités d'explication de cette domestication parlementaire, ben, il y a des choses assez surprenantes, effectivement, face à des députés qu'on a accusés d'être des godillots, des playmobiles. Donc on peut retrouver des mécanismes d'une assemblée finalement qui est très hétéronome, avant d'être qui pour le coup manque beaucoup d'autonomie sur plein d'aspects. Mais c'est intéressant d'autant plus que vous avez quand même des parlementaires d'Emmanuel Macron qui sur leur affiche de campagne avaient inscrit candidat officiel d'Emmanuel Macron, ce qui questionne quand même ce que je disais sur l'inversion d'une économie de la représentation.
Bon, à l'époque, il y avait Victor Hugo comme critique du régime. Aujourd'hui, non, je vous embête, Nicolas Tardy. Mais bon, on peut relire Victor Hugo à ce sujet.
Oui, et puis il avait, déjà c'est bien sûr particulièrement stimulant de lire, mais généralement l'ensemble de la littérature du 19e siècle pour étudier la période. Mais lui parlait explicitement des parlementaires comme des domestiques. Et en ce sens, je pense qu'il voyait assez juste.
Bon, j'espère qu'elle sera bientôt publiée, votre thèse, Nicolas
Merci
Tardy.
Beaucoup.
C'est important ce que vous faites, la fabrique du consentement parlementaire. C'était votre thèse soutenue il y a peu, dans quelques instants, Alexandra Delbo va nous parler des fossiles, ça ne nous rajeunit pas.